Bien, merci d'être venu pour cette dernière séance. Alors les rangs sont un peu plus clairsemés, peut-être que les gens croient qu'il y a une quatrième séance lundi prochain, mais le 24, il y a peu de chance. Alors, dans cette dernière séance, alors je vais essayer, alors je vous promets presque chaque fois ça, mais là je vais essayer de tenir mes promesses. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de vous laisser peut-être plus de temps pour poser des questions, puisque, comme c'est la dernière séance, peut-être qu'il y aura une accumulation de questions qui vont apparaître, puisque c'est la dernière, c'est la dernière intervention. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est une chose qui peut paraître un petit peu curieuse, c'est que je vais essayer de montrer donc un pays qui connaît des taux de croissance très importants, qui s'enrichit, qui devient de plus en plus puissant sur la scène internationale, et bien que ce pays peut être aussi en même temps en crise, ou en tout cas avoir présenté des aspects qui peuvent laisser penser que dans les quelques années, à très court terme, voire à très très court terme, il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes à régler, un certain nombre d'événements qui peuvent remettre en cause la stabilité sociale et politique de la Chine. Effectivement, ça peut paraître curieux de parler de crise à propos de la Chine, puisque la Chine continue à connaître des taux de croissance, alors un tout petit peu moins importants qu'il y a quelques années. Quelques années, on était à 10-11. Là, maintenant, on est sans doute aux alentours de 8-9. Évidemment, c'est des taux qui font rêver les Européens qui en sont à moins 1. Donc, effectivement, on a l'impression, et si vous avez été en Chine, ou si vous allez aller en Chine, si vous allez en Chine, vous verrez que vous aurez une impression, au contraire, de développement, d'enrichissement, vous aurez l'impression véritablement que ce pays n'est pas du tout dans une situation difficile. Et pourtant, on va essayer de le voir, il y a des problèmes à l'intérieur du pays. Alors on se contentera là de parler de l'intérieur, pour l'instant, du pays. On aura l'occasion sans doute dans les questions peut-être d'étendre un petit peu, mais il y a déjà tellement de choses à dire en une heure à propos de ce qui se passe à l'intérieur de la société chinoise, que l'on va peut-être laisser un tout petit peu de côté les questions extérieures, bien qu'elles soient liées évidemment à la situation que connaît la Chine à l'intérieur de ses frontières. Alors, d'abord, je vais essayer de faire un bilan et ensuite je vais essayer de vous donner deux exemples de domaines dans lesquels il me semble que là il y a des éléments d'instabilité, en tout cas deux questions que la Chine va devoir résoudre dans les années à venir assez rapidement si elle veut continuer à préserver sa stabilité. Alors, le bilan. Alors, après une trentaine d'années de réforme, de politique de réforme et d'ouverture qui a largement tranché avec tout ce que l'on a raconté à propos du grand bond en avant la dernière fois, mais aussi, rappelez-vous ce que l'on a pu dire sur situation entre les deux guerres, entre 1911 et 1945, effectivement, la politique de réforme et d'ouverture qui a commencé à la fin des années 70 a considérablement changé les choses. Alors, elle a évidemment changé les choses dans le domaine économique, dans le domaine social, etc. En même temps, et c'est un peu le paradoxe, et c'est la difficulté que l'on doit aborder quand on parle de la Chine, en même temps, sur le plan politique, il semble que les choses ne sont pas tout à fait nouvelles, que sur ce plan-là, il n'y a pas eu de transformation véritablement radicale. On va voir que la société a complètement changé, en même temps, reste à la tête de ce pays un parti unique, le Parti communiste chinois, et pour l'essentiel, quand on regarde ce qui s'est passé lors du dernier congrès, du 18e congrès, on a l'impression finalement que pas grand-chose a changé, on voit ces personnages très sérieux qui lisent leurs textes au caractère près, qui annoncent des changements de personnes, on ne sait pas comment ça s'est fait, qui a décidé quoi, comment ils se sont mis d'accord, à travers quel processus ils ont choisi Xi Jinping, donc le nouveau dirigeant, on n'en sait absolument rien. Donc il y a une opacité politique pratique, hein, on aura l'occasion d'y revenir surtout, un peu plus loin, une opacité politique, évidemment, qui tranche avec les transformations absolument radicales que l'on peut trouver dans tout un tas d'autres domaines. En même temps, ce côté, la Chine a beaucoup changé, mais en même temps, finalement, les pesanteurs de l'époque socialiste sont encore extrêmement présents. C'est quelque chose qu'on le retrouve à peu près dans tous les domaines. C'est-à-dire que, même si on a l'impression que l'économie a énormément changé, on verra que finalement, certes, elle a changé, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments, finalement, qui sont liés, hein, à la phase précédente, à ce qui s'est passé entre 1949 et la fin des années 70. Donc on va sans arrêt, hein, se balader dans ces deux extrêmes, un peu d'une certaine façon, beaucoup de changements, mais en même temps des pesanteurs extrêmement fortes, de fantastiques réussites, mais en même temps des éléments qui peuvent nous faire penser que la Chine risque d'être en crise, ou peut-être qu'elle est déjà dans une certaine forme de crise. Alors évidemment, on le verra, c'est pas une crise comme peut connaître aujourd'hui l'Europe. On a une crise véritablement de croissance économique, hein, extrêmement importante. C'est plutôt une crise de changement de modèle économique, une crise de changement de modèle social, une crise de changement de modèle politique. Hein. Alors que, bon, en Europe, il y a des tas de gens, des économistes qui vous expliquent qu'il faut changer ci ou ça, des hommes politiques qui vous disent qu'il faut changer telle chose, que dans le domaine social, etc., etc., mais personne ne dit véritablement qu'il va falloir changer totalement de modèle économique, de modèle social ou de modèle politique. On en est beaucoup plus à des bricolages, on donne des petits coups de vis, des changements ici, etc., etc. En Chine, on sent bien, et les autorités elles-mêmes, on va le voir, sont conscientes de ce genre de choses, que la Chine va devoir changer de modèle politique, de modèle social, économique et de modèle social, et sans doute, avec évidemment plus de politique, plus de difficultés, pardon, parce que le politique englobe évidemment tout ça, aussi sans doute de modèles politiques. Donc d'abord, le bilan de ces 30 années de réforme. Quelle est aujourd'hui, hein, la forme, la morphologie, hein, de la société chinoise? Alors, des éléments évidemment là-dedans que vous avez déjà eu l'année dernière, hein, quand on a parlé de la période actuelle, hein, donc je vais redire sans doute peut-être certaines choses que j'ai dit l'année dernière, mais bon, c'est toujours bien de toute façon de se rafraîchir un petit peu la mémoire, puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de m'écouter l'année dernière, de toute façon, ça sera pas quelque chose de complètement répétitif. Alors, premier point dans ce bilan, la Chine a énormément changé. Hein. C'est sans doute, on est en train d'en discuter entre historiens, mais sans doute le pays qui, dans l'histoire, hein, de l'humanité, a changé le plus brutalement, le plus violemment. On voit ça à travers, par exemple, les catégories sociales, hein, structures sociales. Hein, on a vu disparaître des classes sociales, on a vu apparaître de nouvelles classes sociales. Hein, c'est-à-dire, on a vu disparaître, par exemple, une classe qui joue un rôle extrêmement important jusque dans les années 80, qui s'appelle la classe des employés et des ouvriers, en fait, qui constituait environ 80% de la population urbaine, et qui, pour l'essentiel, travaillait dans des grandes entreprises d'État ou des administrations. Hein. C'est-à-dire cette classe d'urbains qui, dans cette classe qui représentait l'essentiel du monde urbain et qui travaillait donc directement dans des structures étatiques, hein, que ce soit des entreprises, que ce soit des administrations, que ce soit des écoles, etc., étant donné que avant les années 80, l'ensemble, hein, de tous ces domaines-là était sous le contrôle des autorités étatiques. Cette classe extrêmement importante a complètement disparu en tant que classe sociale. Les individus eux-mêmes n'ont pas disparu, puis s'ils ont disparu, évidemment, ils ont fait des enfants, donc il y a une reproduction. On verra justement comment s'est faite cette reproduction sociale. Mais en tant que classe sociale, hein, ces gens-là ont disparu. Ils ont été, pour la plupart, écartés de leur emploi entre 1995 et 2002-2003, dans un vaste mouvement de liquidation, on peut dire, de l'emploi urbain. On a licencié de 40 à 60 millions de personnes dans ces années, de manière extrêmement importante, donc dans les grandes entreprises d'État, sous des formes diverses, retraite anticipée, un statut particulier qui s'appelle Xiagang, où ils continuent à recevoir, ils sont mis à la porte, on peut dire, mais ils continuent à recevoir pendant 3 ans un certain nombre de subsides de leur entreprise pour pouvoir, par une transition, trouver un autre travail. Je ne compte pas dans ces chiffres non plus les dégraissages qu'il y a eu dans la fonction publique. Dans la fonction publique aussi, on a beaucoup mis des gens à la retraite anticipée. On a supprimé aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas véritablement fonctionnaires, mais qui avaient un statut, précaire, contractuel, on pourrait dire. On a mis fin à leur contrat, etc., etc. C'est-à-dire que l'État, qui contrôlait l'ensemble de l'appareil productif, s'est assez rapidement, 7-8 ans, très largement retiré de cette économie. Pas complètement, on va le voir justement, et il s'est recentré sur un certain nombre de domaines, un certain nombre de branches, un certain nombre de secteurs économiques, mais en termes d'emploi, il y a un recul extrêmement net dans ce domaine-là. Au départ, jusque dans les années 80, l'État produisait pratiquement tout ce qui était produit sur place. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, même si, on va le voir, l'État reste le personnage central, en fait, de l'économie chinoise, mais pas sur le plan de l'emploi, sur le plan du contrôle d'un certain nombre de branches, mais pas sur le plan de l'emploi. Donc on a strictement, on a liquidé cette classe sociale qui en plus profitait donc d'un emploi à vie, d'une sécurité sociale, d'une protection sociale absolument totale, profitait de tout un tas d'avantages à l'intérieur de l'entreprise, activités culturelles, activités sportives gratuites, des écoles pour les enfants, des crèches pour les bébés, etc., etc. On disait, un film de plaisanterie, mais ce n'était pas complètement une plaisanterie, qu'on rentrait dans une entreprise après ses études et qu'on en sortait dans une boîte en bois qui était elle-même payée par l'entreprise, puisque l'entreprise aussi était en charge des obsèques. Donc une prise en charge absolument totale de la vie des gens. Donc cette classe sociale qui encore une fois représentait 80% quand même de la population urbaine, c'est pas rien, on peut dire que c'est le cœur de la population urbaine, a complètement disparu. Dans le même temps, deux autres classes sociales sont apparues. Une classe sociale, enfin une catégorie sociale, en termes de classe c'est peut-être un petit peu trop précis, une catégorie sociale que l'on appelle les ouvriers migrants. En chinois, le terme c'est paysan ouvrier, strictement, de manière littérale quand on traduit le terme. Donc ce sont des gens, pas très difficile à s'imaginer, ce sont des gens qui ne sont plus paysans. Continue à avoir un statut malgré tout de paysan, sur le plan, on pourrait dire, de l'attachement au sens légal du terme. Ils sont toujours considérés comme paysans, mais dans la réalité, ils ne sont plus paysans puisqu'ils vont travailler en ville et ils vont d'une certaine façon constituer une nouvelle classe ouvrière. L'ancienne classe ouvrière a disparu. Et remplacé par une nouvelle classe ouvrière qui s'appelle les ouvriers migrants, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, bien évidemment. Ils ne sont pas urbains, ils ne sont pas fonctionnaires, alors que les autres étaient quasi fonctionnaires, on pourrait dire. Ils sont beaucoup moins éduqués, évidemment, que les ouvriers de l'époque socialiste. Donc il y a une différence qui est extrêmement importante. Et la deuxième catégorie, c'est la classe moyenne, alors qui fait beaucoup parler d'elle. Donc cette classe moyenne qui représente, là on peut dire tous les chiffres que l'on veut, parce que la classe moyenne, c'est une, on va en reparler, mais c'est un concept extrêmement vaseux. que l'on a beaucoup de mal à définir, mais enfin disons un groupe de gens qui sont ni pauvres ni riches, on pourrait dire, hein, et qui jouent évidemment un rôle central, hein, parce que ils sont pas pauvres, donc ils ont des moyens évidemment de consommation, hein, ils ont un travail, ils sont à un certain niveau d'éducation, etc., qui représente tout de même une population qui a distingué, je dirais, de la grande masse de la population. Et en même temps, ils sont pas aussi riches que les riches, évidemment, par définition, mais ils sont beaucoup plus nombreux que les riches, évidemment. Donc ils jouent un rôle, en termes de poids économique, qui est évidemment extrêmement important. C'est important d'avoir des riches, hein, dans une société. Bon, ça, on peut vendre des Ferrari, on peut vendre des bijoux, on peut vendre des choses, etc. Mais enfin, bon, en général, dans une société, les riches ne sont pas très très nombreux. Donc, bon, ils n'achètent pas des Ferrari quand même tous les jours, bon, une fois par an, mettons, bon. Tandis que, bon, c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, d'avoir une population, une classe moyenne, quand même relativement nombreuses, qui achèteront sans doute pas des Ferrari, mais qui achèteront des Renault, des Peugeot, bon, et qui peuvent, et c'est évidemment là-dessus que se base, bien évidemment, qui se base évidemment l'économie. Donc voilà, donc tout de même des transformations quand même très radicales, hein, on a vu rarement quand même des sociétés où en 20 ans, des classes sociales disparaissaient, des classes sociales apparaissaient, comme ça, hein, sortant d'on ne sait où, d'une certaine façon, on va voir d'où sortent, parce que les classes sociales, elles sortent jamais comme ça de nulle part, hein. Les classes sociales, elles sont le fruit de transformations d'autres classes sociales, évidemment, par définition, hein. Les gens, ils sortent pas comme ça de la terre comme une génération spontanée, mais des choses tout à fait quand même originales, et notamment ce phénomène dont on parle très très peu, mais qui est quand même un phénomène qui a une influence très forte sur l'histoire récente de la société chinoise, qui est ce double phénomène de désindustrialisation quand même, c'est-à-dire que on va fermer des entreprises, c'est-à-dire que c'est une espèce de phénomène comme en Lorraine, hein, il y a quoi, une trentaine d'années en France, non, à peu près, hein, je me souviens plus exactement, mais enfin la grande époque de la désindustrialisation française, et en même temps une industrialisation, hein, c'est-à-dire d'un côté dans le nord-est de la Chine, les grandes régions industrialisées dans les années 50 disparaissent quasiment, c'est-à-dire en tout cas le tissu industriel disparaît. Dans le même temps, au sud de la Chine, une nouvelle industrie apparaît. Donc un double phénomène de désindustrialisation quelque part, à une industrialisation d'autre part. Mais évidemment dans des contextes tout à fait différents. L'industrialisation, c'est l'industrialisation à la soviétique. Ensuite, dans le sud, c'est l'industrialisation à la capitaliste sauvage, hein, à la 19e siècle, on pourrait dire, hein, c'est des choses qui n'ont rien à voir, hein, évidemment, l'un avec l'autre. Donc, transformation sur les structures sociales. Des transformations aussi absolument extraordinaires, et ça, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, concernant le niveau de vie. Hein. Les niveaux de vie en Chine ont absolument explosé, hein. J'avais beaucoup insisté là-dessus l'année dernière, mais j'y reviens, c'est une donnée absolument fondamentale. On n'a jamais vu autant de gens progresser aussi vite du point de vue des niveaux de vie. Hein. Il faut s'imaginer que des paysans qui, il y a encore une vingtaine, 20 ou 25 ans, vivaient dans la misère, voire dans la disette, aujourd'hui, réussissent, voilà, je dirais pas d'acheter une voiture, mais en tout cas d'acheter une moto, un motoculteur, de pouvoir construire une nouvelle maison, consommer très largement, voire éventuellement faire quelques petits voyages à la capitale pour voir comment ça se passe, etc., etc. Donc une explosion, si vous voulez, du niveau de vie et de la capacité, évidemment, de consommer. Je vous donnerai juste, si vous voulez, un exemple. Hein. Il y a 20 ans, personne en Chine n'avait une voiture individuelle. Personne. Même dire quasiment. je dirais même 17-18 ans. Hein, c'est tout à fait, c'est le milieu, disons, des années 90 où on a vu quelques personnes acheter des voitures. Donc, quasiment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des voitures, mais les voitures appartenaient aux administrations, aux entreprises, etc. Mais à titre individuel, il était impossible d'acheter, non seulement financièrement, mais même légalement d'ailleurs, une voiture. Aujourd'hui, il y a une voiture pour 100 personnes sur l'ensemble du territoire chinois, ce qui fait quand même, on est parti de zéro, on arrive à 10 voitures pour 100 personnes, une voiture pour 10 personnes, c'est quand même un chiffre extrêmement étonnant. Et dans une ville comme Pékin, on a aujourd'hui 5 millions de véhicules, c'est-à-dire qu'on est passé de 0 à 5 millions en, disons, une grosse quinzaine d'années. C'est absolument énorme. On a 5 millions de voitures individuelles pour 20 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'une personne sur 4 aujourd'hui à Pékin, aujourd'hui en 2012, a une voiture. C'est quelque chose, tout de même, un changement absolument radical. Autre chiffre, dans les années 1985, on avait un appareil d'air conditionné. Alors vous me direz pourquoi un appareil d'air conditionné, parce que en Chine c'est très important les appareils d'air conditionné, parce que il fait extrêmement chaud en été, l'air conditionné, avoir un appareil d'air conditionné, ça apparaît comme vraiment quelque chose, un accès, on pourrait dire, à un certain confort qui est extrêmement important. Donc on avait un appareil pour 100 personnes en Chine. Aujourd'hui, on a dépassé largement 1 pour 1, c'est-à-dire qu'évidemment on peut avoir plusieurs appareils par appartement, puisqu'on a plusieurs pièces, donc on met un appareil d'air conditionné par pièce. Et c'est extrêmement important parce que, évidemment, il fait très chaud l'été, et que l'hiver, au sud du fleuve bleu, enfin dans toute le sud de la Chine, on pourrait dire, il n'y a pas de chauffage, et en hiver, en fait, on utilise l'air conditionné comme chauffage. Et je peux vous assurer que même à Shanghai, l'hiver, quand il n'y a pas de chauffage, il fait pas chaud. Il fait 8-9 degrés dans les appartements. Donc là aussi, c'est un élément de confort qui est extrêmement important. On pourrait multiplier, si vous voulez, les choses. Sur ce plan-là, il y a 30 ans, personne n'avait de machine à laver. Aujourd'hui, tout le monde a des machines à laver. Personne n'avait de télévision. Aujourd'hui, tout le monde a des télévisions, etc. etc. Donc on a des niveaux de consommation qui ont absolument explosé. On a aussi des transformations absolument radicales dans la manière de vivre, évidemment, dans le style de vie, comme on dit. C'est-à-dire que personne ne voyageait il y a encore une trentaine d'années. Personne n'avait l'occasion de voyager. Aujourd'hui, les vacances, par exemple, sont devenues un élément très important de la vie sociale, à telle enseigne que quand on a expliqué aux Chinois il y a quelques années qu'on allait peut-être supprimer quelques jours de vacances parce que les jours de vacances étaient des espèces de, sont toujours d'ailleurs des espèces de jours d'exode. On a l'impression que mai-juin 1940, chaque fois qu'il y a des vacances en Chine, c'est-à-dire que les trains sont absolument bondés, il faut acheter des billets 3 mois à l'avance, faire des queues absolument incroyables, toutes les chambres sont prises de partout, etc. C'est vraiment... Donc c'est une espèce d'engouement pour les vacances absolument extraordinaire. Et quand on a expliqué il y a quelques années que l'on allait limiter le nombre de vacances parce que justement tout ça explosait, que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas le gérer, les gens se sont mis à écrire sur Internet, sur les blogs, etc., insultant absolument tous les gens. Il y a eu des pétitions monstrueuses, etc., etc. Et le gouvernement a été obligé de reculer devant l'opposition. Alors que les gens n'avaient jamais de vacances, ne partaient jamais de chez eux, n'avaient jamais l'occasion, je ne dirais pas d'aller à l'étranger, mais même de voyager en Chine, là il y a eu une transformation absolument radicale. C'est un exemple évidemment parmi parmi d'autres. Et puis il y a un changement sur lequel on reviendra un petit peu plus loin rapidement. C'est un changement qui me semble tout à fait important, toujours dans le style de vie, on pourrait dire, dans les modes de vie. C'est le rapport tout à fait différent aujourd'hui qui existe entre les individus, la société et l'État. Hein. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas auparavant, hein, qui n'existait pas encore il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle la vie privée, est aujourd'hui une donnée qui est extrêmement importante. Hein. Ça vous paraît rien du tout, mais aujourd'hui, la vie privée est respectée. Hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur famille. Ils font à peu près ce qu'ils veulent, personne ne va aller les surveiller, ce qu'ils font chez eux, alors que auparavant, n'importe qui ayant une autorité quelconque pouvait rentrer chez vous, voir ce que vous faisiez, regarder dans votre frigo, visiter ce que vous viez, etc., etc. Bon. Aujourd'hui, c'est la vie privée, y compris la sexualité aussi, hein, façon dont les gens se comportent sur le plan sexuel, ou des relations extra-conjugales, etc., etc. Tous ces éléments-là sont considérés comme aujourd'hui relevant de la vie privée. L'homosexualité, enfin, tous ces éléments-là, les éléments dont l'État ne s'occupe plus, hein, à partir du moment où ça touche la vie privée. Bon, après, quand les mouvements, les associations, etc., on entre dans autre chose, si vous voulez. Hein, bon, on entre dans un autre domaine. Mais en ce qui concerne des choix, des orientations personnelles, il y a une très très large liberté, et il y a une très large liberté même qui est plutôt encouragée. Aujourd'hui, dans la société chinoise, on encourage à avoir de la personnalité, à avoir de l'individualité, à ne pas faire comme les autres, on recherche de faire les choses différemment. Voilà. Il y a les professeurs vous disent aussi que vous devez essayer de voilà, exprimer vos propres sentiments, vos propres idées, etc. Ce qui ne se fait pas obligatoirement facilement, on reverra ça un petit peu plus loin. Donc changement extrêmement important, changement extrêmement radicaux. En même temps, on est souvent assez étonné devant le conservatisme, on pourrait dire, de cette société. Et pour vous donner une idée un peu de ce conservatisme, je commencerai par regarder un petit peu les éléments qui classifient les gens dans la société chinoise aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les capitaux, hein, que l'on doit avoir, quel est le capital, les capitaux que l'on doit avoir pour avoir des positions, un statut social élevé, hein, dans la société chinoise. Alors, si on reprend les qualifications, les termes sociologiques que l'on utilise souvent pour classer les gens dans une société, on utilise ce qu'on appelle le capital politique, c'est-à-dire est-ce que vous avez un pouvoir politique, hein, pouvoir syndical, y compris le pouvoir syndical par exemple, est-ce que vous avez des fonctions, est-ce que vous êtes, ou alors est-ce que vous connaissez des gens qui ont des fonctions, hein, est-ce que vous avez une influence politique quelconque. Vous avez le capital économique, c'est-à-dire est-ce que vous avez de l'argent, hein, est-ce que ça compte d'avoir de l'argent dans une société. Vous avez le capital culturel et vous avez ce qu'on appelle le capital social, hein, c'est-à-dire les relations que vous entretenez. Et dans une société, en général, ça tourne autour de ces éléments. Hein. Quelqu'un peut avoir évidemment beaucoup de capital politique, hein, c'est-à-dire il peut être ministre, hein, il peut être député, il peut être haut fonctionnaire. En même temps, on peut avoir obligatoirement beaucoup de capital économique, hein, on peut avoir un salaire tout à fait correct, mais sans avoir beaucoup d'argent. L'inverse existe aussi, on peut être le patron dans une entreprise où on gagne beaucoup d'argent, et en même temps avoir aucun pouvoir politique. Hein. On peut avoir du capital culturel, hein. Par exemple un professeur d'université est censé avoir du capital culturel, en même temps il n'a pas obligatoirement beaucoup de capital économique. Capital politique aussi, ça dépend, hein, il peut aussi faire la politique ou pas, il peut, bon, ça peut jouer, etc. Bon, puis il y a des... et le capital social, là aussi, bon, au sein de l'université, peut ou pas en avoir, ça dépend. Donc les gens sont classés, si vous voulez, on peut classer les gens en fonction de ces différents critères. Comment ça se passe en Chine? Au départ, en Chine, globalement, il y avait deux types de capitaux qui fonctionnaient avant les réformes. Hein. C'est le capital politique, hein, puisque votre place dans la hiérarchie politique était extrêmement importante. Est-ce que vous êtes secrétaire d'une section du parti? Est-ce que vous êtes dans le parti? Est-ce que vous êtes en haut, en bas, etc. Même votre emploi aussi était lié évidemment à une classification politique. Si vous étiez ouvrier dans une entreprise qui travaillait pour l'armée, par exemple, c'était mieux que d'avoir travaillé pour une entreprise qui n'appartenait pas à l'armée, etc., etc. Et puis, l'autre élément aussi qui est fondamental, c'était le capital social. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont puissants? Ça, c'était un élément qui était très important. Est-ce que vous pouvez avoir du piston, hein, pour dire les choses? Est-ce que vous pouvez utiliser la corruption pour avoir un certain nombre d'éléments? Mais les autres capitaux économiques, comme il n'y avait pas de capitalistes, comme on ne pouvait pas gagner de l'argent, de toute façon, ça ne comptait pas, et le capital culturel comptait relativement peu, parce que les intellectuels n'avaient pas une position qui était bien installée, et au moment de la révolution culturelle notamment, ou même rappelez-vous le mouvement anti-droitier, être intellectuel c'était pas une très bonne idée, hein, il valait mieux être ouvrier, paysan, faire partie du peuple, etc., etc. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, bizarrement, c'est que le capital politique est toujours extrêmement important en Chine. On aurait pu penser qu'avec la libéralisation économique, avec le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises privées, qu'on peut faire du business, bien finalement être au parti ou être secrétaire d'un parti ou être au gouvernement, à différents niveaux, etc., ça serait beaucoup moins important. C'est ce qu'on croyait d'ailleurs dans les années 80. Au début des années 90, hein, à l'époque, beaucoup de gens écrivaient la Chine va complètement changer. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire du fric. C'est avoir du fric. Et être secrétaire du parti, c'est plutôt plouc, quoi. Ça fait pas très sérieux, là. Capital économique et peut-être capital culturel, les gens disaient aussi, ça pourrait être intéressant. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avoir des positions politiques, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que précisément le parti et le gouvernement, les fonctionnaires restent dominants dans le domaine économique. Ce qu'il faut savoir en Chine, c'est que même s'il y a une privatisation dans beaucoup de branches, les branches essentielles de l'économie, celles où on se fait le plus d'argent et qui jouent le rôle le plus important, restent dans les mains de l'État. Quand on regarde le classement des 500 plus grandes entreprises chinoises, on trouve 350, 370, 380, suivant les classifications, entreprises d'État. Et on trouve aussi des entreprises privées, mais dans lesquelles il y a une participation de l'État. Donc quand on regarde les très grosses entreprises, l'État, qui est l'État? C'est les fonctionnaires, hein. Les gens qui sont en charge, évidemment, très directement de ces entreprises, sont extrêmement importants. Alors, on les retrouve dans quelques branches, on les retrouve comme par hasard dans les branches les plus intéressantes. Hein. L'immobilier, évidemment, parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous avez été en Chine, vous avez vu qu'on construit beaucoup. Hein. L'énergie. Bon, comme par hasard, c'est aussi quand même un secteur où on fait quand même pas mal de sous, hein, quand même. Les transports. Les télécommunications, la finance, hein, les banques chinoises sont encore très largement des banques d'État. Donc on voit bien que l'État est toujours présent dans le système économique. Alors, capital économique, est-ce que le capital économique joue, le fait d'avoir de l'argent joue un rôle important en Chine? Oui, bien sûr. Avoir de l'argent, c'est extrêmement important. Ceci dit, est-ce que le fait de pouvoir faire du business, de pouvoir faire de l'argent, a fait apparaître une nouvelle classe sociale complètement différente de celle qui tenait les manettes auparavant? En gros, non. C'est-à-dire que les gens qui font beaucoup d'argent, c'est des gens qui ont aussi du capital politique. Soit directement, soit indirectement, parce que ce sont des cousins, des frères, des sœurs, des tantes, des amis, des alliés, des copains, tout ce que vous voulez. et qu'il y a quand même très peu de gens, ça existe, hein, qui, on pourrait dire, étaient exclus auparavant, avaient un statut social extrêmement bas, parce qu'ils n'avaient pas de statut politique, de position politique, et très peu de gens qui sont devenus des businessmen, des millionnaires de haut vol. Il y en a quelques-uns, etc., mais ils sont rares, et en général, ils ont très rapidement dû rentrer dans le système politique eux-mêmes. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'Assemblée nationale politique, on a des milliardaires hein, qui sont députés, donc qui sont dans le système politique. Donc on voit bien que la distinction capital-économie-capital politique, aujourd'hui, est une distinction qui est difficile à faire, hein, parce que il faut avoir des appuis politiques pour faire du business, et quand on fait du business, eh bien, au bout d'un moment, il faut transformer, on pourrait dire, les gains économiques en gains politiques, hein, d'une façon ou une autre, en faisant des cadeaux, en aidant les gens, en versant des bourses, enfin, en proposant des bourses, par exemple, aux fils de ministres, etc. Donc, il y a une intégration, on pourrait dire, des élites hein, autour de ce mélange politique économique. Capital culturel, alors oui, hein, ça c'est un changement qui est très radical. Hein. Autant les intellectuels faire des études auparavant, dans les années 50, 60, 70, c'était un truc un peu dangereux. Hein. On vous envoyait assez facilement à la campagne, voire en camp de rééducation. Donc le fait d'avoir fait des études n'était pas du tout une garantie de statut social. Hein. Et on voit encore dans les années 80, les gens qui sont à la tête du parti, dans les provinces, au niveau national, ce ne sont pas des gens qui ont fait des études. Ce sont des gens qui ont plutôt une légitimité révolutionnaire. Hein. Ce sont des gens qui ont combattu les Japonais, le Kuomintang, etc. etc. Et puis, les choses changent très rapidement dès les années 80. Aujourd'hui, faire des études est un atout absolument essentiel, c'est-à-dire réussir le concours d'entrée à l'université aujourd'hui, c'est faire un saut qualitatif, c'est un saut en termes de mobilité sociale ascendante qui est absolument radical. Et cela dans tous les domaines, hein, y compris dans le domaine politique. Aujourd'hui, les gens qui sont à la tête de la Chine, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont fait certains des doctorats, etc., etc. Donc, c'est des gens qui ont fait vraiment des études. Hein. C'est pas des gens qui... pour les générations futures, c'est moins sûr, parce que parfois les diplômes sont un petit peu comme ça. Mais pour en tout cas les gens de la génération qui sont une génération qui tient aujourd'hui les rênes du pouvoir en Chine, on a très clairement une importance du diplôme qui est absolument radical. D'où une tension extrêmement importante, c'est-à-dire que dès l'âge de 2, 3, 4 ans, les parents doivent commencer aujourd'hui à se poser la question de la crèche où on va mettre les enfants, de la qualité de l'école primaire ensuite, de la qualité, etc. etc. Une espèce de chemin de croix, on pourrait dire, mais en espérant que, enfin, quand on est sur la croix, on est content, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques siècles. C'est un chemin de croix à l'envers, on pourrait dire, qualitatif, c'est-à-dire que on souffre, mais au moins, une fois qu'on est au Golgotha, on a atteint le nirvana, si je veux faire des comparaisons, et donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, très clairement, hein, quand on cherche un travail, c'est tout très spécifié, hein, c'est un niveau licence, un niveau master, un niveau doctorat, etc. etc. C'est extrêmement important d'atteindre ce genre de niveau. Enfin, quatrième élément, les relations sociales. Les relations sociales sont extrêmement importantes aujourd'hui en Chine, et on retrouve ces relations sociales évidemment dans tous ces domaines. Hein. La politique, évidemment, hein, si vous avez des gens dans votre famille ou parmi vos amis qui ont des positions politiques importantes, c'est extrêmement important puisque eux peuvent vous faciliter les choses si vous faites du business, évidemment. Je donne un exemple très simple. Si votre papa est en charge de la gestion de la terre dans une grande ville, par exemple, hein, c'est-à-dire que la terre en Chine, dans les villes, est une propriété d'État, hein, et c'est un bureau de la municipalité, par exemple de Pékin, qui s'occupe de la gestion des terres, et c'est eux qui allouent des terres, qui vendent des terres, on pourrait dire, pas exactement qui vendent, puisque justement la terre est inaliénable, mais qui vendent un droit d'usage, hein, en général de 70 ans, à des promoteurs immobiliers, voilà. Eh bien, c'est un avantage évidemment absolument énorme, puisque précisément aujourd'hui l'immobilier joue un rôle absolument énorme dans la croissance économique, hein. On estime à 1 à 2% la croissance de ce secteur, hein, sur une croissance de 8-9%, donc c'est quand même relativement important. On peut faire énormément d'argent, évidemment, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent acheter des appartements aujourd'hui, et donc on peut multiplier, avant même de construire, on peut déjà doubler ou tripler la mise assez rapidement en revendant un autre promoteur immobilier, etc., etc. Donc si vous connaissez des gens, évidemment, dans l'administration des terres, évidemment, c'est un avantage qui est absolument énorme. Si vous connaissez évidemment des gens riches aussi, c'est extrêmement important, parce que les gens riches peuvent à la fois évidemment vous aider en prêtant de l'argent ou en vous ouvrant les portes d'un certain type d'activité économique, mais aussi les gens riches connaissent des gens puissants, donc etc., etc., etc. Et puis, y compris dans le domaine culturel, évidemment, les relations personnelles sont extrêmement importantes, parce que pour rentrer dans une bonne université, pour rentrer dans une bonne école, surtout, l'université, il y a un concours, alors on peut un peu jouer sur les marges, mais bon, avec un concours, c'est quand même un petit peu compliqué de tricher, mais on peut tricher, hein, pour envoyer votre enfant qui n'a pas le droit véritablement dans une université, dans un lycée, dans un collège, etc., ou même dans une bonne classe, hein. Il y a dans chaque lycée, dans chaque collège, il y a différents types de classes, avec des très bonnes classes, des classes moyennes, des classes, etc., donc avec évidemment moins de chances de réussite au fur et à mesure où vous trouvez dans des classes qui sont censées être de moins bonne qualité. Donc l'importance de ces réseaux, alors on pourrait dire, moi c'est pas du tout mon explication, mais c'est souvent une explication facile qui est donnée, c'est parce que évidemment la Chine traditionnellement toujours tout est basé sur les relations. Les relations sont extrêmement importantes à l'époque de Confucius, ta 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 ta. Je crois qu'il y a une raison beaucoup plus simple. On en avait aussi parlé l'année dernière, je crois, c'est que quand on a commencé à changer de système économique dans les années 80 et dans les années 90, eh bien, quand on a pu faire des affaires, quand on a pu, sortir un peu, hein, de cette économie étatique, on n'avait pas d'autre choix tellement que de s'appuyer sur des relations personnelles, hein. Quand tout était étatisé, quand si vous êtes dans une situation où tout est étatisé et puis tout d'un coup on vous dit oui, vous pouvez ouvrir une petite entreprise, un petit restaurant, etc., il est bien évident que vous ne pouvez pas vous appuyer sur des relations de marché qui par définition n'existent pas. Personne ne savait, quand on a commencé à faire du business dans les années 80, où trouver des matières premières, où trouver des produits agricoles. Chacun était dans une espèce de petite cellule dans son entreprise ou dans son administration, et personne n'avait des relations en dehors de cette petite cellule. Donc il a fallu sortir de cette cellule, et bien évidemment, pour sortir de cette cellule, on ne pouvait compter que sur l'existence de relations personnelles. Et peu à peu, évidemment, ces relations personnelles sont devenues un petit peu le maillage des activités économiques. Aujourd'hui, évidemment, il y a des marchés, hein, bien évidemment, mais les habitudes sont difficiles à changer, et puis surtout on sait bien que dans un marché le rôle de la confiance est important, c'est-à-dire que quand on fait du business, il faut aussi être à peu près sûr des gens avec qui vous faites du business, il faut pouvoir honorer sa signature, etc., etc. Donc ça, pour moi, hein, l'existence de ces relations, c'est tout simplement la possibilité, la seule possibilité qui existait pour changer, hein, de système économique. Alors, cette évolution, on pourrait dire, a donné quel genre de situation ? Alors, quels sont aujourd'hui les grands groupes sociaux ? Comment on peut caractériser la société chinoise grâce à ces différents capitaux ? Pour aller un petit peu vite, hein, je vais faire trois catégories. Les catégories supérieures, les catégories moyennes et les catégories inférieures. Alors, catégorie supérieure, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ce qui est frappant en Chine à l'heure actuelle, c'est que les gens qui appartiennent à la catégorie supérieure cumulent en fait l'ensemble des capitaux que présente ou que dont on peut jouir, on pourrait dire, dans la société chinoise. C'est-à-dire que les gens des classes supérieures sont à la fois les plus puissants politiquement, les plus riches, les mieux éduqués, en règle générale. Et c'est ceux, évidemment, qui ont le plus de capital social, par définition, puisqu'ils connaissent à la fois des gens riches, puissants et bien éduqués. Évidemment, ça aide dans la vie, hein. Bon. Qui sont ces gens ? Ce sont trois types, en fait, de personnages. Ce sont les managers, les responsables, responsables au pluriel, hein, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'état-major, hein, des grandes entreprises d'État. Ce sont les gens qui sont en position aussi de responsabilité dans les grands corps d'État, dans les administrations, dans les organismes du parti. Il faut savoir que le Parti communiste est quand même plus de 80 millions d'adhérents. Hein. Donc ça veut dire qu'il en faut des gens pour gérer tout ça, hein, pour gérer tous ces membres du parti. Imaginez, c'est plus que la population française, donc hein, ça fait quand même du monde. Bon. Et enfin, ce sont l'état-major, on pourrait dire, des grandes entreprises privées. Ces grandes entreprises privées qui sont aussi d'ailleurs souvent en partie propriétaires, soit d'entreprises d'État, soit d'organismes d'État, soit d'organismes locaux. Hein. En Chine, une mairie peut très bien ouvrir des usines, créer des hôtels, faire des activités économiques, etc. Mais aussi des organismes comme les syndicats, comme la Fédération des femmes, peuvent avoir des activités économiques. La police aussi, par exemple, possède des hôtels, des restaurants, des karaokés, voire ce qui ressemble un peu à des bordels dans certaines villes, etc., etc. C'est-à-dire que on considère qu'en Chine, des activités d'État, enfin liées à l'État et des activités économiques, ne sont absolument pas incompatibles. Bien évidemment, ceux qui ont décidé que ce serait comme ça, c'est évidemment les puissants eux-mêmes. Hein, bon. Donc c'est les gens eux-mêmes qui ont en position politique, en position de domination politique, qui ont décidé que, bah, ma foi, faire des business finalement n'était pas si grave que ça. Donc voilà, alors ces gens-là, aujourd'hui en Chine, hein, contrôlent, hein, on pourrait dire, l'ensemble des capitaux et sont puissants sur l'ensemble dans l'ensemble des domaines. Ce qui est relativement particulier quand même, hein, parce que si on regarde une société comme la France ou une société même comme les États-Unis, on pourrait dire qu'un prof de fac est un type extrêmement puissant sur le plan culturel, Hein, voilà, il fait des cours, regardez, tous les gens viennent, écoutent, voilà, ne mettent pas en question ce qu'il dit, voilà, etc. Donc il y a quand même une certaine puissance. Il peut écrire dans les journaux, enfin oui, bon. En même temps, économiquement, on compte zéro. Politiquement, pas non plus énormément grand-chose. Bon, relations sociales quand même. Bon, voilà, on rencontre le directeur du TNP quand même. Ça peut être pas mal. Voilà. Bon, donc, mais vous voyez, on est sur. Bon, pour avoir des gens qui sont. Un autre exemple, un patron d'une PME qui se fait plein d'argent, mais qui n'a jamais fait d'études, par exemple. Hein, tout le monde le prend pour un plouc, tout le monde se moque de lui. Eh oui, mais sauf qu'il a quand même de l'argent, il roule en Lamborghini, etc. Bon, ça existe hein, aussi. Hein, donc, il y a des décalages, on pourrait dire, hein, de situations hein, qui fait que, ma foi, on n'a pas une espèce d'intégration, de cohérence total hein, des positions. Alors qu'ici, on a assez clairement cette situation. Deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Ce sont, c'est basé sur les emplois, donc c'est toujours un peu vaseux, mais bon, les techniciens, les gens qui travaillent dans les entreprises d'État, des niveaux intermédiaires, qui sont professeurs, qui sont professeurs dans les lycées, qui sont instituteurs, c'est des gens qui travaillent aussi dans les entreprises à des niveaux moyens, hein, ce qu'on appellerait les cadres, hein, en France, hein, pour vous donner un petit peu une idée. Hein. Alors je sais bien qu'en France c'est très compliqué les cadres, parce qu'il y a les cadres supérieurs, les cadres moyens, enfin on rentre dans des détails complexes, mais voyez à peu près, hein, les gens qui sont pas tout à fait en haut, hein, c'est pas l'état-major, ils sont quand même un peu en dessous et jouent un rôle important dans les entreprises. C'est une catégorie aussi, une catégorie importante, ce sont ce qu'on appelle les entrepreneurs individuels. Alors les entrepreneurs individuels, c'est un peu nos artisans et commerçants, un peu, vous voyez, les individuels. C'est-à-dire c'est des gens qui sont propriétaires de leurs moyens de production, mais qui n'emploient que quelques personnes. Hein. C'est pas voilà, c'est à peu près l'équivalent artisan, toute petite entreprise, commerçant, petit commerçant, de choses de ce type. Et puis, alors eux, oui, alors eux. Et il y a un peu des distinctions quand même, hein. C'est-à-dire les entrepreneurs individuels, souvent ils n'ont pas fait d'études. Hein. On peut même trouver des migrants parfois dans ces entrepreneurs individuels, ils n'ont pas fait d'études, donc peu de capital culturel, mais par contre ils ont de l'argent, hein. En tout cas par rapport aux autres, pas autant que les riches, mais quand même. Ils n'ont pas tellement de capital social. Souvent, leur problème, ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas tellement de capital social parce que, précisément, ils ne connaissent pas de gens quand même bien placés, etc., etc. Par contre, bon, les techniciens sont à la fois des gens relativement bien payés, dans des situations relativement bonnes aussi quant au statut social, qui connaissent des gens, voilà aussi on pourrait faire un peu c'est un peu les cadres, hein, des gens qui sont à peu près moyens, on pourrait dire, de partout, évidemment des différents. Et puis enfin, dernière catégorie, ce sont les classes inférieures. Alors, les classes inférieures, c'est quoi? C'est pour l'essentiel ceux qui travaillent dans le domaine du commerce, hein, mais évidemment à des niveaux très inférieurs. Hein. Je ne vous parle pas d'une grosse entreprise du commerce, mais quand on parle de commerce, c'est ceux qui vont être employés dans des restaurants, qui vont être employés dans des magasins, qui vont être employés dans des hôtels, etc., etc., et qui font partie quand même globalement. Alors là, il faudrait faire la différence, vous voyez, entre un petit hôtel et un grand hôtel. Dans un grand hôtel, vous avez des gens qui travaillent à la réception, là c'est plutôt la classe moyenne, mais dans des petits hôtels, ce sera plutôt des inférieurs, etc., etc. Donc c'est la couche vraiment inférieure des gens qui travaillent dans les services. Et puis vous avez une grosse catégorie qui est très importante, ce sont les ouvriers aujourd'hui. Alors les ouvriers, hein, attention, hein, les ouvriers, ce sont des paysans, hein, en Chine. Donc c'est un peu compliqué. C'est des ouvriers, c'est-à-dire qu'ils appartiennent vraiment tout à fait aux catégories inférieures parce qu'on les retrouve dans des entreprises, dans le sud de la Chine, avec des conditions de travail souvent très difficiles, avec des salaires qui sont assez bas, avec une absence de protection sociale, avec des conditions aussi de logement qui sont tout à fait limites, etc., etc. Donc ce sont des ouvriers, mais plutôt, vous voyez, genre ouvrier 19e siècle, quoi. Hein. C'est pas l'ouvrier des années 50 ou 60 en France, où, je dis pas que c'était pas difficile de travailler dans les usines des années 50 et 60, mais enfin, il y avait une certaine protection sociale, un certain nombre de lois sociales, un certain nombre de protections, disons, surtout pour les Français. Bon, pour les immigrés, c'était quand même un petit peu moins net, mais pour les Français, disons que, bon, voilà, il y avait une législation plutôt correcte, on pourrait dire. Et toujours dans les classes inférieures, on a les paysans. On a les paysans, évidemment ceux qui sont restés sur place. Alors souvent, ceux qui sont restés sur place, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce phénomène, vous allez dans des villages chinois où vous n'avez que des enfants et des vieux, et puis tous les autres sont partis en fait travailler. Il y a quand même environ 250 millions de paysans aujourd'hui qui travaillent dans les villes. Donc, vous voyez, c'est pas des petits chiffres quand même, ça fait quand même 250 millions, ces ouvriers dont je parlais tout à l'heure. Enfin, les ouvriers, pas autant, mais je compte aussi justement ces employés dans le commerce, vous savez, les plongeurs dans les restos, les cuisiniers, les serveurs dans les restos, etc. Je parle pas des restaurants de luxe, mais dans les restaurants normaux, etc. etc. Et puis ensuite, ensuite tous les marginaux. Alors les marginaux c'est quoi? C'est les chômeurs, c'est les demi-chômeurs, c'est les quarts de chômeurs, les gens qui sont dont on ne sait pas où classer, c'est tout ça qu'on met dans cette catégorie. Alors ce qui est très important, très intéressant dans cette division en trois catégories, c'est que les groupes en question sont absolument pas du même poids. Et on a un système pyramidal, on avait vu ça l'année dernière, rappelez-vous, la pyramide et l'olive, ou le ballon de rugby, on va en reparler, mais on a aujourd'hui une structure sociale qui est en pyramide. C'est-à-dire qu'en haut, les catégories supérieures, c'est 6-7% environ. Bon, ça c'est à peu près normal. Il y a à peu près toujours dans toute société, il y a 6-7% de riches, de gens puissants, enfin voilà, c'est à peu près ça. En dessous, on a, tout en bas plus exactement, c'est là où la différence, c'est que les classes inférieures, c'est 70-80% de la population. Alors attention, les classes supérieures, c'est pas des mendiants, c'est pas des gens qui vivent, c'est pas l'Inde, la Chine, Attention, c'est pas des gens qui vivent dans la rue, qui dorment par terre, qui vont dans les poubelles pour manger, etc., etc. Attention, c'est absolument pas, on en viendra là-dessus, c'est absolument pas cette situation. Mais c'est des gens qui sont dans les classes inférieures, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint, disons, un niveau de vie qui leur permet justement de rentrer dans ce que l'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire les 22-23% restants, qui sont les gens à l'aise, on pourrait dire. Je ne vais pas rentrer dans les histoires des querelles autour des classes moyennes, mais à partir de manière, la définition la plus simple, à partir de la classe moyenne, c'est les gens qui sont à l'aise. On pourrait dire, c'est-à-dire qui ont un appartement correct, dont ils sont souvent propriétaires, qui ont une voiture à leur disposition, qui peuvent aller boire un coup le soir, éventuellement aller manger au restaurant avec les copains le dimanche. Je vous donne une image globale, qui est valable pour la Chine, mais qui peut être aussi globale à peu près pour la France, qui peuvent aller en vacances. Qui peuvent profiter des vacances, qui peuvent payer des cours particuliers à leurs enfants, pour qu'ils réussissent mieux à l'école. Voilà, ce sont les gens à l'aise, qui ont quitté d'une certaine façon ce monde un peu de la précarité, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire où les gens sont un peu en équilibre, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas mobiliser d'argent pour faire du superflu, hein, globalement. Hein, c'est un peu ça, c'est l'entrée du superflu. Hein, dans les années 50 et les années 60, en France, c'est ça, hein, qui a joué un rôle important dans cette idée, dans cet imaginaire de la classe moyenne, c'est qu'on peut se payer le superflu. Alors qu'avant, on ne pouvait pas se payer le superflu. Hein, pas question, hein, de sortir du cadre étroit, hein, du budget. Bon, là, on peut faire quelques folies, on pourrait dire, hein, etc. Donc, vous voyez que les gens qui font des folies, qui peuvent se faire des petites folies, il n'y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup, hein, en Chine. Bon. C'est une frange, etc. Et donc, précisément, on va le voir, un des problèmes fondamentaux, qui peut déboucher évidemment sur une crise économique, c'est ces structures, évidemment, en pyramide. Parce que on sait très bien que dans ce genre de structure, il y a des tas d'exemples historiques, les classes inférieures, bon, surtout quand elles améliorent leur situation, ce qui est le cas, hein, les classes inférieures d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout les classes inférieures, hein, je vous rappelle, dans les années 80, hein, ou encore pire, dans les années 70. Hein. En 1981, 64% de la population chinoise était en dessous du seuil de pauvreté. 64%. Hein. Aujourd'hui, c'est 10%. C'est un chiffre, quand même. Et ça, c'est pas des propagandes, des choses comme ça. Hein. C'est des chiffres qui sont assez solidement établis. Quand vous allez à la campagne, vous voyez bien que même dans des campagnes, parfois même un peu reculées, on voit que les gens mangent à leur faim, enfin qu'ils sont sortis de la pauvreté. Hein. Donc classe inférieure, ça ne veut pas dire pauvreté. Hein. Ça veut dire comme ça, quoi. C'est-à-dire, voilà. On n'a pas vraiment encore possibilité d'acheter une voiture, d'acheter un appartement, vous voyez, d'être vraiment en sécurité, hein, on pourrait dire. Donc, il y a une amélioration qui est extrêmement importante, y compris dans cette catégorie. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, on voit très nettement qu'en Chine, il y a à la fois élévation globale du niveau de vie, dans toutes les catégories, y compris parmi les migrants dont je parlais tout à l'heure, hein, les 250 millions de migrants vivent beaucoup mieux depuis qu'ils ont quitté la Terre, même s'ils sont exploités, même si tout ce que vous voulez. Hein. Ils ont un niveau de vie qui est incommensurablement plus important que le niveau de vie qu'ils avaient avant de quitter la Terre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils quittent la Terre, parce que bon, ils sont pas complètement abrutis. Hein. Bon, s'ils vont se faire exploiter dans le sud de la Chine, c'est qu'ils y trouvent un avantage. Hein. Et l'avantage, c'est un revenu, hein, qui est un revenu plus important. Alors, ce qui ne veut pas dire que, bien évidemment, encore une fois, les conditions qui leur sont offertes ne sont pas... bon. Mais c'est un peu comme les immigrés qui venaient se faire exploiter, qui étaient d'une certaine façon relativement contents de venir se faire exploiter. Il y avait un côté positif, il y a toujours un côté positif dans la migration, hein. On sait bien que les gens qui vont migrer, bah pour eux c'est à la fois une question économique bien évidemment, mais c'est aussi une question de statut social, de prestige, hein. Migrer, ça vous donne un prestige quand vous retournez ensuite chez vous, etc. Donc c'est un mouvement, on peut dire, ascendant, hein. Alors c'est, vous voyez, c'est contradictoire, c'est paradoxal, bien évidemment, parce qu'à la fois on se fait exploiter, mais en même temps on a un certain côté positif, on pourrait dire, hein, à cette exploitation, parce que de toute façon, chez soi, on n'a pas de possibilité. C'est-à-dire, quand vous êtes un paysan chinois aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en sortir, ou très difficilement. Hein. Vous allez manger des navets et des carottes toute l'année, et vous allez être en bleu de travail toute l'année. Alors, vous pouvez être très bien, très heureux, être en bleu de travail et manger des navets et des carottes toute l'année, bien évidemment. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord pour ce genre de choix, hein, bon, etc. Je me souviens très bien, moi j'ai fait des enquêtes auprès de jeunes paysannes en Mongolie, hein, qui me disait, alors elle fait des enquêtes et je trouve, enfin elle travaille dans des salons de coiffure, alors elles n'étaient pas du tout des vrais salons de coiffure, hein, parce qu'il y a deux types de salons de coiffure en Chine, hein, il y a les salons de coiffure où les dames ne savent pas couper des ciseaux, mais parce que ça, pas couper les cheveux, mais ça fait d'autres choses sans doute, et puis. Et puis les vrais salons de coiffure. Elles étaient dans les vrais salons de coiffure, elles avaient des conditions de travail très difficiles. Elles travaillaient tous les jours, alors elles n'avaient pas de vacances. Hein. Quand je parle des vacances, évidemment, ça exclut beaucoup de gens, bien évidemment. Notamment tous les gens qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas évidemment de d'avantages sociaux, notamment en termes de congés payés, etc., etc. Elles travaillaient très très durement, 10 heures, 12 heures par jour, etc. Mais quand je les interviewais, elles disaient qu'elles étaient extrêmement contentes. Pourquoi elles étaient extrêmement contentes? Parce qu'elles avaient multiplié leurs revenus par 30. Par 30. C'est-à-dire qu'elles étaient très très mal payées, mais ce très très mal payé était infiniment mieux payé que le quasi zéro qu'elles avaient en plantant des choux et des navets. Donc vous voyez, c'est une situation qui est paradoxale, complexe, contradictoire, etc. Donc on a une situation où aujourd'hui les inégalités en Chine, si ça continue comme ça, ça continue actuellement, les inégalités entre les pauvres et les riches, la Chine dans sans doute moins de 10 ans sera à peu près au niveau des pires pays en matière d'inégalité. Des pires pays en matière d'inégalité. C'est-à-dire les pires pays d'inégalité, c'est par exemple l'Afrique du Sud. Ce serait intéressant parce qu'on en reparlera, mais l'Afrique du Sud est un pays démocratique. Hein, il y a des élections, etc. etc. Ben, c'est un des pays aujourd'hui où les inégalités entre les pauvres et les riches sont les plus énormes à l'intérieur dans le monde connu. Donc la Chine se rapproche peu à peu de ce genre de terme. Mais en même temps, on n'a pas du tout dans la même situation, évidemment. Parce que les pauvres en Chine, ils sont moins pauvres que les pauvres en Afrique du Sud. Parce que les pauvres, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les gens, les paysans qui sont restés chez eux et qui vivent dans des régions qui sont reculées, mais malgré tout, qui mangent à leur faim, qui ont un toit sur leur tête. Hein. Et donc, ce sont des pauvres, alors ce sont des chômeurs, mais qui reçoivent des allocations, peu d'allocations, mais qui leur permettent de manger, d'avoir un toit, etc., etc. Hein. Donc, on est dans une situation, vous voyez, qui est... Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que les riches en Chine sont beaucoup plus riches que les riches aussi en Afrique du Sud. D'accord. Donc, vous voyez, ce genre la difficulté à comparer les situations. C'est pour ça qu'à la fois, on a un écart énorme entre les riches et les pauvres, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on est passé de 64% de taux de pauvreté à 10% à l'heure actuelle. Et avec même on continue à avoir une diminution des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc une situation qui est tout à fait particulière. Pour finir sur ces questions un peu de stratification sociale, quelques mots sur l'emploi, hein, parce que ça permet en même temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, premier élément, je crois qui est important, c'est qu'il y a un gros problème d'emploi en Chine. Alors ça peut paraître étonnant, puisque tout le monde va en Chine, apparemment les emplois s'en vont d'Europe, et puis donc ils vont en Chine. Bah oui, mais ils ne sont pas suffisants, et de moins en moins suffisants, pour permettre l'emploi de l'ensemble de la population, chinoise. Et la productivité du travail en Chine est extrêmement faible. extrêmement faible. C'est-à-dire que tous les Chinois que je rencontre se moquent de moi parce qu'ils m'expliquent qu'en France, notre problème, c'est qu'on travaille que 35 heures, qu'on est des gros feignants, et que si on se remontait un petit peu les manches, eh ben, ça irait beaucoup mieux. Oui, sauf que quand vous allez en Chine, vous voyez des gens, effectivement, qui passent beaucoup d'heures de travail sur leur lieu de travail, mais avec une activité quand même qui n'est pas très active. Si vous allez dans des banques, par exemple, vous allez voir, il y a 20 personnes qui traînent, et puis vous en avez 4 qui travaillent, véritablement. Quand vous allez dans le restaurant, vous n'attendez pas 30 secondes que quelqu'un vienne vous servir. Quand vous allez dans un commerce, c'est pareil, vous avez immédiatement quelqu'un à votre disposition pour agir. Même dans la construction, qui est un endroit d'exploitation quand même assez fort, on voit très très bien ça dans les grandes villes, sur les chantiers, vous avez 2 à 3 fois trop de travailleurs. Alors, pourquoi ? Parce que le travail coûte très peu cher. Les expatriés les expatriés français, ils ont 1 bonne, 3 bonnes, 4 bonnes, un chauffeur, etc., etc. Alors, ils ont des salaires qui sont évidemment conséquents, mais aussi parce que ça ne coûte rien. Donc, vous pouvez facilement avoir plusieurs femmes de ménage à votre disposition. Parce que vous avez un coût du travail qui est extrêmement limité. Donc il y a tout de même un sous-emploi très important en Chine qui est précisément alors un problème qui pourrait aussi ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Officiellement le taux de chômage est très faible. Le taux de chômage est environ de 4,5% à peu près, donc ce qui est pas rien, mais enfin c'est pas énorme, mais pour être chômeur, pour avoir le statut de chômeur en Chine, c'est extrêmement compliqué. D'abord il faut avoir un contrat de travail. Bon. Or un contrat de travail, dans les villes chinoises, il n'y a qu'une personne sur deux qui a un contrat de travail environ. C'est-à-dire l'informalité du travail représente à peu près 50% de la main-d'œuvre dans les grandes villes chinoises. Bon. Donc évidemment, si vous n'avez pas de contrat de travail, si vous n'avez plus de travail, vous ne pouvez pas être chômeur, par définition, puisque vous ne pouvez pas prouver qu'il y a eu une rupture du contrat de travail. Les jeunes, par exemple, qui n'ont pas de travail, ne peuvent pas non plus prétendre être chômeurs. Les migrants eux-mêmes ne rentrent absolument pas dans cette catégorie de chômeurs, parce que d'abord, ils n'ont pas un contrat de travail, puis quand ils ont un contrat de travail, on considère de toute façon que ce contrat de travail est temporaire, par définition, et qu'ils vont aller retrouver tout seuls du travail ailleurs, et que c'est pas la peine de s'en occuper, etc. Donc, on ne connaît pas, aujourd'hui, le taux de chômage, évidemment, parce que pour avoir un taux de chômage dans un pays, il faut avoir quand même un cadre juridique quand même relativement clair. Et si vous savez pas, évidemment, si les gens ont un travail ou pas de travail, par définition, on peut pas décider s'ils sont chômeurs ou pas. Un autre élément qui est important quand on parle du travail. Et ça aussi, c'est un élément qui est très, très inquiétant, c'est que les diplômés du supérieur aujourd'hui ont des difficultés à trouver du travail. Ça, c'est un phénomène qui a débuté il y a 4 ou 5 ans, qui est lié à un phénomène, mais en partie lié à un phénomène, qui est la démocratisation de l'accès à l'université. C'est-à-dire que une trentaine d'années, environ 1,5% d'une classe d'âge allait à l'université. Une classe d'âge, les gens qui finissent le lycée, 1,5% qui allaient à l'université. Très bien. Aujourd'hui, on est à 25%. Donc, c'est une progression absolument énorme. Alors, quand je dis démocratisation, attention, ça ne veut pas dire que vous avez des paysans, etc., etc., que vous avez, il y a une mobilité ascendante par les études. Non, en fait, démocratisation, ça veut dire que de plus en plus de gens qui appartiennent à la population urbaine accèdent à l'université. Parce qu'en fait, le concours d'accès à l'université, c'est un concours tout à fait respectueux des règles, mais qui donne un avantage à la population urbaine. Alors, si vous êtes né dans une ville, vous avez un accès privilégié dans les universités de cette ville. Hein, donc, c'est beaucoup plus. Il faut que vous ayez des bien meilleurs résultats pour accéder à l'université quand vous êtes fils de paysan. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir plus de points. C'est comme si, par exemple, les gens de Lyon, ben voilà, il suffisait qu'ils aient 400 points pour aller à l'université de Lyon, alors qu'un paysan de Carrare, par exemple, ben, il lui faudrait 600 points. Hein. Et puis, alors, un paysan de je sais pas d'où, encore plus loin, il lui faudrait 700 points. Hein. Et puis, etc., etc. Donc, c'est plus difficile. C'est la discrimination positive à l'envers, quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire, voilà. Si vous venez de milieux défavorisés, vous avez encore moins de chances que si tout était égal par ailleurs. Bon. Donc, démocratisation qui est évidemment relativement limitée. Donc démocratisation, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens, évidemment, parce que bah, c'est normal, hein, un pays se développe, il faut des ingénieurs, il faut des trucs, etc. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de ces jeunes, et notamment les jeunes qui sortent des universités les moins bien cotées, hein, et là on voit bien comment dans un système où on essaie de démocratiser, il y a toujours une vengeance qui s'opère par le système, hein. C'est comme en France où avant les fils d'ouvriers n'allaient jamais à l'université. Bon, maintenant les fils d'ouvriers vont à l'université, mais systématiquement ils vont dans les mauvaises universités, des mauvaises filières. Enfin, il y a des études là-dessus qui sont très claires. Et ils vont très peu à l'école normale supérieure, ils vont très peu à l'ENA, ils vont très peu à Sciences Po, etc., etc. Donc, on n'échappe pas véritablement au système d'une certaine façon. Donc, on a un système de gens là. C'est-à-dire, si vous sortez d'une très bonne université, hein, en général, les gens qui sortent de très bonnes universités viennent de milieux favorisés, hein, fils de prof, fils de cadre du parti, fils de fonctionnaire, fils de businessman d'un certain niveau, etc. etc. Hein, c'est très clair dans les études que l'on peut faire, y compris celles que j'ai faites moi dans l'université où j'étais à Tsinghua. On voit bien qu'il y a une discrimination sociale qui s'opère. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est un des gros problèmes. C'est que beaucoup de ces nouveaux étudiants, ces nouveaux étudiants, quand ils ont fini leurs études, donc ils sortent d'université de pas très bonne qualité, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Quand ils arrivent à trouver du travail, ils sont tellement nombreux sur les segments en question qu'ils ont des salaires du niveau des migrants. Ce qui pose un certain problème. Hein. Il y a un anthropologue chinois qui a écrit un livre, on va peut-être essayer de le traduire, je vais peut-être essayer de faire traduire, qui s'appelle « Le peuple des fourmis ». Le peuple des fourmis, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est les jeunes diplômés d'universités de mauvaise qualité qui sont obligés de vivre ensemble dans des zones, en général, qui sont des zones où vivent les travailleurs migrants. Ils sont obligés de louer des pièces, hein, dans des habitats délabrés, un peu comme des parce qu'ils n'ont pas les moyens pour accéder à un logement décent, hein, étant donné la progression du marché immobilier. Donc c'est un problème qui est extrêmement important. Dernier point, je dirais sur cette question de travail, c'est la question une particularité aujourd'hui du travail en Chine. C'est le fait que le travail joue un rôle extrêmement important dans la vie sociale. C'est-à-dire que, quel que soit, en gros, le milieu social dans lequel on vit, le travail est au centre, vraiment, de la vie des gens. Hein, les gens mangent à midi tous ensemble, dans les bureaux, dans les usines, etc. Le soir même, les gens mangent ensemble, hein, avant de rentrer chez eux. Heureusement, ils mangent assez tôt en Chine, à 6h ou 6h30, mais quand même, souvent, quand ils sortent entre copains de travail. Le week-end, ils se font des week-ends aussi entre eux. Donc il y a une grande difficulté à séparer, je dirais, la vie personnelle et la vie privée et la vie au travail. Ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, alors qui que l'on peut évidemment relier à ce que je disais tout à l'heure, dans les années 60-70, cette habitude aussi de vivre dans des espèces de cellules, dans des espèces de milieux finalement extrêmement limités, hein, une habitude de vie sociale. Puis le fait que les relations sociales étant tellement importantes, évidemment, plus on a de relations sociales, et plus on a de relations intenses, je dirais, avec des gens, et plus on a de chances aussi de se sortir de situations difficiles. Hein. La relation sociale est vraiment un élément très important. Vous savez, quand on cherche quelque chose en Chine, il suffit de téléphoner à quelques amis chinois pour que on a une solution. Vous cherchez un professeur de dessin pour votre fille, vous cherchez un club de sport sympa, vous cherchez un club où aller faire du ping-pong, vous cherchez je sais pas quoi. Il suffit de crier très fort parmi votre cercle d'amis et en général les choses se passent relativement bien. La notion du marché, disons, des lieux où on peut trouver satisfaction est relativement limitée. Voilà, alors j'en ai fini maintenant aux questions, disons, de stratification sociale. J'ai essayé d'avancer un peu quand je vous ai promis de moment de questions. Je vais essayer d'avancer pour parler de la situation politique d'une certaine façon. Hein. Je terminerai donc très rapidement par quelques éléments de crise. Alors, on a vu à quoi ressemblait la situation dans le domaine de la stratification sociale. Essayons de voir la situation politique de la Chine. En fait, on va voir que la situation est très complexe. Hein, et l'image que donne la presse française, notamment la situation de la Chine, est une image, moi, que je trouve très clairement tout à fait fausse. Hein. J'ai très bon copain journaliste avec lequel je m'engueule très très régulièrement sur cette question-là, justement, dans des correspondants du Monde, que je connais très bien, etc. Et on n'est absolument pas d'accord sur la façon de présenter les choses. Évidemment, la facilité un peu, c'est de présenter la Chine comme une espèce de dictature, hein, une espèce de communisme capitalisme ou de dictature capitaliste, je ne sais pas appeler ça comme ça, c'est-à-dire un pays où finalement il n'y aurait pas tellement eu de changement par rapport aux années des années 70. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas non plus de ceux qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est formidable, la Chine, c'est encore mieux même que s'il y avait des élections, etc., etc. » Pas du tout. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer que la situation politique, en fait, est plus complexe qu'on le dit souvent. Alors, évidemment, parce que dans les journaux, c'est beaucoup moins vendable quand vous commencez à un peu pinailler, quand vous commencez à montrer que c'est contradictoire, que c'est compliqué, que etc., etc. Les journaux et les journalistes, en général, n'aiment pas ça, parce qu'il faut que ça reste dans la limite des mille signes, des 1500 signes, apparemment, et donc, évidemment, il nous faut, des choses qui sont extrêmement claires. Mais la situation, il se trouve qu'elle n'est pas très claire. Alors, premier point, la situation des libertés publiques, on pourrait dire de manière générale. Alors là, les choses commencent à devenir évidemment un petit peu compliquées, parce que, et là j'affirme ça de manière assez préemptoire, aujourd'hui en Chine on peut dire à peu près tout ce qu'on veut à partir du moment où ça reste que dans un cercle privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est terminé de l'époque où vous étiez dénoncé par votre voisin parce qu'il avait vous avez entendu critiquer telle ou telle chose dans l'ascenseur ou en écoutant aux portes, etc. Aujourd'hui, personne n'est arrêté parce qu'il a critiqué même le parti dans un domaine privé. Quand vous allez en Chine, si vous avez la chance de parler chinois, vous verrez que vous serez dans les taxis, vous êtes assailli de critiques de la part de ce taximan qui trouve que les hommes politiques chinois sont tous des pourris, que c'est affreux la Chine, que la corruption règne, etc., etc. Bon. Donc dans le cercle, on pourrait dire, de la discussion privée, vous pouvez dire énormément de choses, y compris même des choses sur Taïwan, etc., etc. Dans le domaine universitaire aussi, à partir du moment où ça reste dans les murs de l'université, vous pouvez aussi vous permettre de dire beaucoup de choses. Avec les étudiants, il faut faire un petit peu attention, mais avec vos collègues, dans des colloques, dans des réunions de ce type-là, moi, qui étais universitaire pendant 6 ans, j'ai entendu des choses extrêmement violentes, extrêmement radicales, hein, sur la situation en Chine. Si on ouvre un petit peu plus loin, quand on parle de manière publique, ça on le voit bien aujourd'hui sur Internet, évidemment, avec les blogs, etc., qui fleurissent un petit peu partout, on peut dire beaucoup de choses. Hein, lisez, par exemple, hein, je le mettrai sur la bibliothèque, dans la bibliographie, le bouquin qui a été traduit tout à fait récemment, des chroniques du plus connu blogueur chinois qui s'appelle Han Han, hein, H-A-N-H-A-N, pas difficile à se souvenir, hein, qui a été traduit par Hervé Dénès, qui est le blogueur le plus lu, hein, personnage assez intéressant, qui est en même temps pilote de rallye automobile, écrivain, etc. Bon, un personnage, hein, lisez, vous verrez que, ma foi, quand même, beaucoup de gens en prennent plein leur grade, je vais y arriver. Donc c'est assez, beaucoup de critiques, beaucoup, etc., etc. Mais, ça y est le mais, il y a des limites à ne pas dépasser, hein. Il y a des sujets sur lesquels il n'est pas possible de transiger. Alors, quels sont ces sujets? Quels sont les limites? C'est un petit peu plus compliqué, mais les sujets, en tout cas, sont relativement bien établis. On n'a pas le droit de dire que le Parti communiste chinois doit disparaître et être remplacé par un système de multipartisme, hein, et que ça serait beaucoup mieux, hein, etc. On n'a pas le droit, évidemment, de dire que les dirigeants chinois, les dirigeants, je parle, hein, sont des pourris affreux, hein, etc., etc. On n'a pas le droit, évidemment, de dire que Taïwan ne fait pas partie du territoire chinois, que le Tibet devrait être indépendant, que, etc., etc. Les questions de sécurité nationale, évidemment, sont absolument impossibles à aborder. Les autres sujets, on peut les aborder, mais, ma foi, il y a un certain nombre de limites. Et ça dépend qui vous êtes, évidemment. Un professeur de faculté peut se permettre, évidemment, de faire des critiques relativement aiguës. Hein, quelqu'un comme Rinran, voilà, c'est quand même bizarre. Bon, un paysan qui dirait la même chose avec des pancartes place Tiananmen, ça serait beaucoup moins accepté, hein, par les autorités. Et puis, surtout, les questions de censure aujourd'hui sont laissées dans un flou qui sont évidemment, alors là on retrouve un peu ce qu'on disait sur l'insécurité, vous voyez, dans les systèmes totalitaires, là il y a un restant de ce truc-là. En fait, tout le monde est dans un système d'insécurité, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop si vous avez le droit de dire, en dehors des sujets dont je viens de parler, si vous avez le droit de dire ce que vous dites, hein, en fonction des lieux, en fonction de votre situation personnelle, en fonction de l'époque, en fonction du sujet, en fonction etc., tout ça peut varier, hein. Donc vous avez des journalistes qui peuvent écrire des tas de trucs très très au couteau, puis tout d'un coup ils écrivent un truc qui a l'air assez anodin, mais dans lequel ils mettent en question quelqu'un qui manifestement avait un certain appui ailleurs, etc., etc. Et là il y a une espèce de retournement de situation. Alors, pourquoi c'est difficile aussi? Parce que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, les classes dirigeantes chinoises sont extrêmement partagées, en factions, les gens ne sont pas d'accord entre eux, et l'expression publique est elle-même manipulée, contrôlée, mais aussi utilisée par les autorités. Hein, aujourd'hui, c'est très important l'opinion publique, c'est très important de savoir ce que pensent les gens. C'est très important d'avoir aussi le contrôle d'un certain nombre de journalistes qui peuvent aller dans votre sens, etc., pour le bien ou pour le mal. Donc, l'opinion publique et l'expression publique est devenue aussi un enjeu politique, hein, qui est extrêmement important. Et on sait très bien que si tel journaliste peut parler, que tel universitaire peut parler, c'est parce que derrière lui, il a quelques personnages relativement importants qui peuvent intervenir. Donc en fait, cette question de la censure, c'est une question qui ne peut absolument pas être séparée de la question du débat entre guillemets politique qui peut y avoir, ou des luttes politiques même tout simplement, qui peut y avoir entre les différents dirigeants, entre les différentes personnes qui ont du pouvoir en Chine. Quand je disais tout à l'heure, il est difficile de savoir si on entre dans le domaine dangereux ou pas. Je donne un exemple de quelqu'un que je connais qui écrit des choses relativement très critiques, hein, qui franchit la ligne parfois en disant que le Parti communiste devrait permettre le multipartisme. Donc là, on est vraiment à la limite, hein, de ce qui peut être dit, etc. Cette personne a été très régulièrement invitée à boire le thé, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est la police qui vous téléphone et qui vous dit voilà, on va se boire un verre de thé, hein, et puis on va boire un petit coup, et on explique que ben là il faut arrêter quand même parce que ça peut aller un peu loin, il faut atténuer les choses, etc., etc., etc. Alors, de deux choses l'une, soit vous avez l'âme de dissident et puis vous envoyez paître gens de la police, mais là, c'est à vos risques et périls. Hein. Personne aujourd'hui en Chine n'est dissident sans savoir. Hein. Ils sont prévenus avant les gens. On leur explique que, attention, vous allez là, ça va pas bien. Ou alors, si c'est pas eux, c'est l'université qui leur téléphone. Donc, vous savez, c'est là, on fait gaffe, hein, il y a un truc, etc., etc. Bon. Donc, voilà. Après, on est chacun, évidemment, étant... Alors, la plupart des gens, évidemment, gèrent ça relativement bien, hein, et pendant quelques temps, s'arrêtent, etc., etc. Ou alors, comme je connais aussi, cette personne en question a des appuis. C'est-à-dire que cette personne est à la fois très impliquée dans les mouvements sociaux, dans les critiques, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui joue le rôle de conseiller auprès de gens très puissants au cœur des pouvoirs chinois. Parce que ça arrive. Hein. Imaginez, si vous voulez, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais le syndicaliste de la CFDT Florange, là, c'est ça, Florange, qui serait en même temps professeur de faculté et conseiller de Monsieur Montebourg en matière de nationalisation ou de gestion, hein, des conflits sociaux. Voilà. Ce genre de situation en Chine est extrêmement courant, hein, où on a des gens qui sont dans des situations très très intermédiaires, à la fois qui signent des papiers très critiques, mais qui en même temps sont régulièrement convoqués par des autorités très haut placées pour qu'on leur explique ce qui se passe parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, sont parfois plus ou moins interpellés par la police, parce que, etc., etc., mais parce que précisément la police et les gens qui soutiennent ces gens-là ne sont pas de la même faction, ne sont pas liés au même personnage, etc., etc. Donc, vous voyez, une situation qui est extrêmement compliqué et dans laquelle on ne peut pas, si vous voulez, décider souvent qui est où, qui fait quoi, qui s'exprime à titre personnel ou pas, etc., etc. Donc ce jeu très difficile à saisir parce que tout est opaque. Deuxième point et dernier point à propos de la question politique. On a vu la question des libertés politiques. Deuxième phénomène en Chine qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement important, c'est une contradiction qui est absolument majeure et et les journalistes ont beaucoup de mal à comprendre ça. Pour ça, j'essaie de leur expliquer, je ne suis pas le seul, j'essaie de leur expliquer très posément, en buvant le thé ou parfois même des boissons un peu plus énergisantes. La contradiction, le paradoxe qui existe en Chine, où la Chine est un pays qui est extrêmement instable sur le plan social, C'est-à-dire, il y a une quantité énorme de mouvements sociaux qui existent en Chine, des grèves, des mouvements de protestation, des pétitions, etc., etc. C'est-à-dire, les Chinois sont très, très, très agités, hein, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus, évidemment, encore plus qu'aux États-Unis, ou en Russie, par exemple, sans faire des comparaisons. Hein, quand je dialogue avec mes collègues qui travaillent sur la Russie, ils sont absolument effarés quand je leur explique que les gens pétitionnent pour un oui, pour un non, sont dans la rue à droite, à gauche, etc., etc. Et en même temps, ce foisonnement de protestations sociales ne donne absolument pas naissance à un mouvement qui irait, par exemple, dans le sens de transformation politique radicale et de changement de régime. Alors, qu'est-ce que sont ces mouvements ? Alors, ces mouvements sont extrêmement nombreux. Hein. Si je veux vous donner quelques exemples, on a des mouvements de protestation de gens qui sont expropriés, de paysans qui sont expropriés de leurs terres pour faire des zones économiques spéciales ou pour faire des opérations immobilières X ou Y et qui ne sont pas du tout contents de la façon dont on les a indemnisés. Vous avez des gens dans les villes qui sont expropriés aussi pour faire des routes ou pour faire là aussi des opérations immobilières qui ne sont pas du tout contents de la façon dont on les a expropriés. Vous avez des migrants qui font grève parce que les conditions de travail sont mauvaises, parce que le salaire est trop bas, etc., etc. Vous avez des propriétaires d'appartements qui sont en lutte contre les propriétaires fonciers parce que on leur a dit que l'on allait créer un bel espace vert juste à côté de leur fenêtre et en fait ils voient progresser peu à peu un grand bâtiment qui va leur cacher toute la vue. Ou alors ils sont rackettés par l'organisme qui gère la résidence dans laquelle ils ont acheté un appartement et ils sont pas du tout contents, ils font des pétitions, ils refusent de payer, ils se battent même parfois avec des gens envoyés par les entreprises immobilières, etc., etc. On a des mouvements aussi de protestation contre des équipements qui polluent ou contre la construction d'usines hein, qui peuvent polluer, etc., etc. On pourrait encore donner d'autres exemples. Donc c'est une situation dans laquelle ce qu'on appelle l'action collective hein, est extrêmement active en Chine. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements sont absolument pas à relier à un désir quelconque d'une transformation radicale du régime. Dans les journaux, on voit à chaque fois qu'il y a des mouvements de protestation, on sous-entend que enfin là, les gens se mobilisent pour la démocratie, hein, avec un grand D, c'est-à-dire quand on parle de la démocratie, évidemment, on pense tout de suite aux élections, évidemment, puisque les élections sont l'élément fou. Hein, couronne un petit peu le tout. Et pourtant, effectivement, quand on étudie ce genre de mouvement, on voit que c'est pas ce qui intéresse fondamentalement en fait les gens. Premièrement, les protestations visent toujours un élément très précis. Hein. Ce sont des problèmes très locaux liés à une situation extrêmement locale. Et les gens n'ont pas très envie de se lancer dans des mouvements qui seraient des mouvements beaucoup plus globaux. Il existe hein, des ONG justement, avec des militants des ONG qui vont de place en place pour vouloir organiser les manifestations des gens, etc., etc. Ils sont plus ou moins bien reçus d'ailleurs, parce que eux, leur objectif, c'est de fédérer tous ces trucs-là. Mais les gens, globalement, ils s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe très concrètement dans leur coin, on pourrait dire. Deuxième point, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces protestations ou les raisons des protestations vont toujours plus ou moins dans le sens des politiques menées par les autorités. C'est-à-dire que quand on regarde très concrètement, on voit que La pollution, c'est aujourd'hui un élément extrêmement important hein, dans la politique actuelle, c'est-à-dire de faire en sorte de diminuer le niveau de pollution en Chine. C'est un objectif du gouvernement. Améliorer la situation des migrants, peut-être l'occasion de revenir si je parle pas trop longtemps là-dessus, c'est un objectif aussi des autorités. C'est-à-dire que ces protestations ne vont pas à l'encontre des politiques, mais viennent plutôt d'une certaine façon montrer que ces politiques ne sont pas encore assez efficaces pour régler les problèmes. Troisième élément, ces mouvements de protestation réclament globalement quoi ? Elles réclament plus de protection pour les droits fondamentaux des individus. Plus de lois, hein, plus de droits, plus de recours, hein, plus de possibilités de protester, plus de possibilités de s'opposer à des politiques ou à des pratiques, plus exactement, locales qui vont à l'encontre des politiques. Mais demander plus de droits, demander plus de lois, ça ne veut pas dire obligatoirement demander plus de démocratie. Ça veut dire demander plus de protection, hein, dans la vie quotidienne, dans ce processus continu d'amélioration la situation matérielle. Et même, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que toutes les enquêtes aujourd'hui montrent, hein, les enquêtes qui sont faites par des chercheurs chinois tout à fait qui sont pas du tout là pour faire de la propagande, mais aussi par des chercheurs étrangers, y compris celles que j'ai pu effectuer, montrent que par rapport à la démocratie, il y a dans l'ensemble de la population chinoise en fait un espèce de clivage très important entre deux éléments. Le premier élément, c'est la démocratie, ou plutôt trois éléments même, hein, allons un peu plus loin même. Dans les discussions que l'on peut avoir, celui avec les intellectuels, mais aussi avec des gens des classes moyennes, etc., on a trois éléments. Ils font une distinction très assez nette entre la démocratie en termes de liberté publique, de protection du droit, la démocratie en termes de démocratie sociale, c'est-à-dire la capacité d'avoir accès à un certain nombre de protections, hein, fournies par la société, et enfin la démocratie sous l'aspect de la démocratie politique, on pourrait dire des élections. Et autant les deux premiers éléments sont extrêmement populaires, autant le dernier est considéré comme quelque chose de tout à fait marginal, voire de tout à fait contre-productif. Ce qui est très, très frappant, c'est que l'ensemble de la population réclame plus de droits, plus de protection légale, plus de droits, plus de liberté accordée à l'expression publique, par exemple dans les journaux, liberté des journalistes à critiquer ou à révéler des scandales, plus de possibilités de s'associer, s'organiser par exemple pour protester, pour lutter contre un certain nombre d'injustices. Donc possibilité d'expression et de protestation. Les gens sont évidemment aussi extrêmement favorables à une question de démocratie sociale. Et en même temps, quasi-totalité de la population est assez rétive à des élections. Alors pourquoi rétive aux élections ? Ben, pour plusieurs raisons. Hein. Quand on lit les réponses qui sont données aux enquêtes ou dans les discussions qu'on peut avoir, les interviews que l'on peut faire, la question des élections est remise en cause, enfin plutôt l'intérêt de mettre en place un système d'élections en Chine est remise en cause d'un triple point de vue. Le premier point de vue, c'est que mettre en place aujourd'hui un système d'élections, c'est confier les clés du pays aux paysans, c'est-à-dire aux gens les moins éduqués et donc les plus capables d'être manipulés par un certain nombre de puissances. Par exemple, le blogueur dont je vous parlais tout à l'heure, Khan Khan, hein, qui est encore une fois le blogueur le plus branché, le plus lu, etc. De Chine, est quelqu'un qui explique que s'il y a des élections, c'est des textes qu'il a écrits plus récemment, donc ils ne sont pas dans le livre que vous aurez l'occasion de lire, mais dans les derniers textes qu'il a écrits, il explique que le problème des élections en Chine, c'est que s'il y avait aujourd'hui des élections, en fait, il n'y a que deux forces qui seraient capables de contrôler ces élections facilement. Ce sont d'une part les grands capitalistes, et notamment les grands capitalistes qui contrôlent les grands organes de presse et les grands organes d'Internet, donc tous les sites extrêmement puissants en Chine. Et deuxième personnage, deuxième plutôt puissance qui serait capable de contrôler les élections, devinez qui serait ce dernier, le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois qui est évidemment le parti, enfin qui est la puissance à la fois la plus riche de Chine, la plus puissante, etc. etc. Et donc, Ranran explique, c'est pas la peine du tout de faire des élections en Chine parce que la situation sera sans doute encore pire, parce que on va avoir à la tête de la Chine des gens qui seront encore plus capitalistes, encore plus avides d'argent, sans doute aussi on aura à peu près les mêmes, et en plus avec une légitimité politique plus importante, et donc sans doute plus de difficultés pour finalement remettre en cause le pouvoir. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a l'idée que aujourd'hui quand même la grande majorité de la population reste une population peu éduquée, paysanne, etc., etc., et donc facilement manipulable. Hein. Alors, rappelez-vous, c'est aussi ce qu'on disait à propos du vote des femmes dans les années 20, 30, 40. Pourquoi on ne voulait pas donner le vote des femmes ? Parce que, non pas parce qu'elles allaient voter comme leur mari, ce qui aurait été finalement pas si pire que ça, mais elles allaient voter comme le curé. Bon. Et donc, elles n'étaient pas des personnages. Oui, c'est donc c'est pas spécialement particulier à la Chine. Hein. C'est une façon, évidemment, d'entrevoir la question des élections, considérant qu'il faut d'abord avoir des électeurs, des gens qui sont conscients vraiment capables de comprendre les grands enjeux avant que l'on mette en avant les élections. C'est la même chose que l'on a dit à propos du refus de la Constitution européenne il y a quelques années, où en fait on n'aurait pas dû demander l'avis au peuple, hein, parce que le peuple n'est pas capable en fait de véritablement comprendre ce genre de choses. On a un peu ce genre de réflexion en Chine qui font que, globalement, c'est assez frappant, c'est que les élections n'ont pas tellement bonne presse en Chine. Le deuxième élément excusez-moi, je suis long, hein, mais bon, plein de choses à dire. Le deuxième élément qui est important, hein, qui vient dans la bouche des gens, y compris ceux qui sont dans les mouvements sociaux, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des gens, ça sort pas de la bouche de gens qui sont des affreux suppôts du parti, etc. Ce sont des gens qui peuvent lutter contre des manifestations d'injustice, qui ont des problèmes avec la police, etc. etc. Le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est de dire que la mise en place d'élections mettra la Chine dans une situation d'instabilité politique qui va l'empêcher sans doute de répondre justement aux défis qui sont devant la Chine, c'est-à-dire les questions de remise en cause d'injustice sociale, la réduction des inégalités sociales, etc., etc. C'est-à-dire qu'une Chine, alors ça peut paraître bizarre par rapport à la façon dont souvent est envisagée les élections, au contraire, comme une chance de pouvoir faire plus de choses, etc. Mais non, là il y a une vision de la démocratie comme un lieu d'éclatement avec des partis politiques plus nombreux les uns que les autres, qui vont se chamailler, qui vont s'engueuler, qui vont essayer de se piquer des électeurs, qui vont essayer d'emmerder le voisin quand il sera au pouvoir, qui va essayer de faire des contre-mesures, etc., etc. Et ce qui est très curieux, par exemple, c'est que l'exemple taïwanais, qui pourrait être un exemple, au contraire, faisant de la propagande pour les élections, puisque Taïwan est le premier pays chinois à avoir une démocratie qui fonctionne d'ailleurs du point de vue, enfin, tout le monde dit qu'elle fonctionne relativement bien, du point de vue chinois, souvent elle apparaît comme ne fonctionnant pas bien. Pourquoi ? Bah parce que les députés taïwanais se tapent dessus très régulièrement dans la chambre, à la Chambre des députés, parce que sans arrêt on change d'avis en fonction du gouvernement, on ferme les centrales nucléaires, on les ouvre de nouveau, enfin tout ça du point de vue chinois n'a pas l'air très très sérieux. Beaucoup de gens, y compris les gens qui sont donc très très ouverts et très critiques, considèrent qu'il vaut mieux en fait un parti unique d'une certaine façon qui soit contrôlé par une opinion politique, une opinion publique relativement puissante, par des journaux qui peuvent jouer le rôle de contre-pouvoir, par un droit qui peut aussi assurer une certaine protection, mais d'avoir malgré tout une classe politique qui puisse prendre des décisions et les appliquer jusqu'au bout. Dernier élément qui est mis en avant, c'est l'incapacité, on pourrait dire, du monde actuel à garantir auprès des Chinois le fait que la mise en place d'un système démocratique complet puisse aboutir à une amélioration de la situation sociale. Parce que les Chinois, aujourd'hui, ils lisent beaucoup, s'il y a une censure, etc. Et ils s'aperçoivent que dans des pays extrêmement démocratiques comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, par exemple, le niveau de vie, les conditions de vie sont loin d'être aussi idéales que on pourrait au départ le penser, quand on sait que l'Inde et l'Afrique du Sud sont des grandes démocraties aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que la mise en place d'un système démocratique peut garantir aux Chinois la perpétuation de la situation actuelle qui fait qu'on a une croissance de 8-9%, une croissance du niveau de vie, etc., etc. Et je peux vous assurer que les Chinois qui vont en Inde ou qui vont en Afrique du Sud, ils ne reviennent pas avec une bonne opinion de la démocratie. C'est-à-dire que, ils risquent de se faire zigouiller à tous les coins de rue quand ils sont dans les grandes villes d'Afrique du Sud. Ils voient mourir les gens dans les rues, mourir de faim dans les rues de... Et je peux vous assurer que c'est pas véritablement une publicité pour... Cette question de ce qu'on pourrait appeler la démocratie sociale, c'est-à-dire le fait que la société garantisse à la très grande majorité de la population, même si, comme en Chine, tout à l'heure j'ai indiqué, c'est inégalitaire, mais il y a une espèce de filet de base qui est garanti quand même à beaucoup de gens, avec des chiffres assez faibles quand même de pauvreté, de lignes de pauvreté. Dans ce genre de situation, évidemment, on a tendance à finalement préférer le maintien d'un système politique, certes, démocratique, mais en même temps garantissant donc ce volet minimum de démocratie sociale. Alors, ceci dit, je ne justifie pas ça, qu'on en s'entende bien. Je me fais l'écho un peu ici de la façon dont on aborde la question, et si vous avez vous connaissez des Chinois, essayez d'aborder la question avec eux, vous verrez que dans 9 fois sur 10, ou sans doute même plus, à la fois ils vont vous dire pique-pendre de ce qui se passe en Chine, la corruption, etc., etc., et en même temps, si vous leur dites « oui, mais bon, s'il y avait des élections, ça serait vachement mieux », et faites le test, essayez de voir quelle sera leur réaction. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison, bien évidemment, je ne me permets pas ce genre de choses, mais je fais simplement l'écho, j'essaie de vous faire comprendre un petit peu comment les gens abordent ce genre de choses pour essayer un peu d'aller à l'encontre de ce qu'on lit souvent dans les journaux, où en gros, on fait passer un peu les Chinois pour des espèces d'abrutis, c'est-à-dire qu'on leur dit mais les gars, vous n'avez pas encore pigé comme quoi les élections et la démocratie, c'est absolument génial, et vous n'avez toujours pas pigé ça, et vous êtes vraiment des victimes de la propagande du parti, etc., etc. Il y a, de leur point de vue, un argumentaire relativement bien établi, expliquant pourquoi, ma foi, ils sont un petit peu inquiets par rapport à... Alors, ceci dit, hein, encore une fois, ce que je veux dire là, c'est que ce genre de jugement, je dirais, très conservateur du point de vue politique, ne signifie pas un conservatisme total. C'est-à-dire que les mêmes qui ont ce genre de disque pestent parce que les journalistes n'ont pas de liberté, assez de liberté pour dénoncer les scandales, que les bureaucrates font n'importe quoi et qu'on ne peut pas les sanctionner, que les gens n'ont pas assez de droits, qu'il faudrait qu'on ait des associations, des syndicats libres défendant les intérêts des gens ou des autres, mais encore une fois, ce genre de revendication est très clivé par rapport à une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus idéale, on pourrait dire, hein, de la démocratie, telle que souvent on la conçoit, au moins chez les journalistes, disons, français, hein, parce que les anglo-saxons ont une vision quand même un petit peu plus complexe que ça. Voilà, donc une situation là aussi qui est assez... et excusez-moi encore de me laisser fort peu de temps pour poser des questions, j'avais encore de toute façon des tas de choses à vous dire.